Alors justement, on peut poursuivre là-dessus sur le déconfinement et cette défiance vis-à-vis de l'État. On sait qu'en métropole, le gouvernement a poussé à rouvrir les écoles, les entreprises. Du coup, qu'est-ce qu'il en est, Adrien, en Guyane?
Ouais, alors pour répondre à Pierre et à cette question de la défiance de l'État en Guyane, on est aussi en Guyane hein, dans un processus long de défiance. 2017 a été une crise aiguë en Guyane avec le mouvement du KPLD. Et actuellement, il y a toujours un rapport très, 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 très conflictuel. En fait, 2017 a montré à quel point l'État français prenait plus d'intérêt en Guyane qu'elle n'investissait. Hein. On connaît tous la rhétorique française qui dit que finalement les colonies ça nous coûte cher et puis ta, 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 ta. Bon, sauf que en Guyane c'est ultra flagrant, c'est-à-dire qu'on a le centre spatial guyanais. C'est 4 à 5 milliards de contrats annuels. C'est le rayonnement international de la France, le rayonnement international de l'Europe. C'est les fusées européennes qui partent de Guyane. Et puis à côté, bah, c'est la misère absolue. C'est 62% de la population qui vit avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. C'est des bidonvilles partout. C'est des gens qui ont vraiment des grandes difficultés à joindre le bout. Ce sont des infrastructures. En ce qui concerne les services publics qui sont complètement sous-investis. Et d'ailleurs, c'était les points les plus importants en 2017, l'éducation, la santé, qui sont largement en deçà de ce qui est promis. Ah, un simple exemple, depuis 2001, depuis une grande grève qui avait duré 45 jours en 2001, l'État s'est engagé à construire, à créer un CHU à Cayenne, à ouvrir un hôpital à Saint-Georges de l'Oyapock. Ça, on va voir que ça a son importance actuellement, et à ouvrir un hôpital à Maripasoula. En 2017, l'État s'est réengagé dans ces trois objectifs. Aujourd'hui, l'État nous dit il n'y aura pas de CHU. Macron est venu à Maripasoula et dit il n'y aura pas d'hôpital à Maripasoula. Et celui de Saint-Georges, on n'en parle même pas. Voilà. Donc, si tu veux, tu vois à quel point les gens ont un rapport à l'État qui est extrêmement conflictuel. Les gens n'ont absolument pas confiance dans les représentants de l'État en Guyane. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a une spécificité guyanaise, alors, qu'on retrouve assez fréquemment dans les colonies, mais la Guyane est en pole position dans le domaine, c'est que les directeurs et les hauts fonctionnaires que l'on place en Guyane n'ont jamais rempli ce poste avant d'être en Guyane. C'est une promotion. Ils doivent faire leur preuve en Guyane. Et donc, on a des gens qui n'ont pas forcément les capacités de faire ce qu'ils font. Une petite anecdote concernant la directrice générale de l'ARS que l'on a actuellement en Guyane, en poste. Elle nous a convoqués de mémoire aux alentours du 15 mars, en urgence. Elle voulait voir tous les syndicats en urgence. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle nous donne rendez-vous à 15h pour 17h. Bon, on se débrouille, on va voir. OK. Et là, on arrive et la dame, elle nous dit, oui, voilà, je voudrais savoir comment on peut informer les travailleurs du risque lié au Covid.
Sacrée question.
Non, mais c'est extraordinaire. Ah oui, j'avais pensé à faire un Facebook Live. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez un petit peu le niveau?
Y a vraiment une vraie déconnexion, quoi, entre
Non, mais
le.
vous imaginez le niveau? C'est un truc de malade. C'est la semaine avant le confinement, hein. Ouais, c'est du délire. On la regarde, on fait, mais attendez, madame, votre responsabilité, c'est de donner les bonnes informations aux employeurs, et c'est les employeurs qui sont responsables de la santé, de la sécurité des travailleurs, c'est pas les syndicats. Ah oui, ah, j'y avais pas pensé. Ah, véridique, véridique, c'est un truc. Enfin bref, voilà, pour te donner un petit peu une idée de l'ampleur du problème. Tu vois, le problème est gros.
Sans
En ce
parler
qui
des
concerne.
populations qui, j'ai sans parler des populations qui sont pas forcément francophones directement en Guyane quoi, pas forcément...
Ah
ah,
bah,
il y a encore un peu tôt.
en Guyane, les choses sont claires. Plus de la moitié des gens n'ont pas pour langue maternelle, enfin, largement plus de la moitié des gens n'ont pas pour langue maternelle le français. Une part importante de la population guyanaise de nationalité française ne parle absolument pas français. Les communes isolées à l'intérieur de la Guyane. Et ces différents territoires, on a des personnes. Enfin, c'est toute une histoire. On va pas revenir dans l'historique très long, mais l'État colonial a appliqué en Guyane des choses très très particulières, et notamment la mise en concurrence des différentes populations. Et pendant très longtemps, ils ont circonscrit ce qu'ils appelaient les populations sauvages dans une grande réserve à l'intérieur de la Guyane, ce qu'on a appelé le territoire de l'Inini. Et ces gens ont acquis la nationalité française qu'en 1969 et le droit de vote en 1969 uniquement. Et donc beaucoup de ces gens-là n'ont pas d'état civil très clair, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils sont nés, donc ils sont nés le 1er janvier de l'année où ils le disent, et puis voilà quoi. Et ce sont des gens qui, en dehors de se faire soigner, ne viennent jamais sur le littoral et donc n'ont pas de contact avec la langue française. Voilà, y a des choses quand même qui sont importantes à bien comprendre, même si au niveau des jeunes c'est un peu différent et il y a plein de gens qui parlent d'autres langues. Ouais. Donc
Alors avant,
effectivement, il y a des spécificités qui rendent les choses un peu plus délicates. Oui.
avant d'aller vers du coup le déconfinement et la situation à Saint-Georges, avec l'histoire de ce fameux hôpital qui sera sans doute jamais construit, par rapport à cette défiance vis-à-vis de l'État, du coup en Guadeloupe, au niveau des écoles, on a vu quand même un soutien très fort, enfin un rapprochement fort entre les élus et puis la population, les élus locaux, j'entends.
Oui, alors rapprochement, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, ce qui se passe, mais comme régulièrement, en fait, quand il y a des dysfonctionnements de la part de l'État ou qu'il y a une crise économique, alors on pourrait refaire encore le topo sur ce qui s'est passé en 2009 au moment de la grève générale, c'est que les élus se retrouvent un petit peu je dirais, voilà, ils sont un peu pris en tenaille et à la fois par les inquiétudes de la population et à la fois par les récriminations des organisations anticolonialistes. Et ce qui s'est passé là, clairement, c'est que les élus ont pris un espèce de coup de pression de la part de la population et des syndicats. Et notamment, ça s'est très bien vu sur la question de la réouverture des écoles. Il y a eu je regardais ça il n'y a pas longtemps, le président de région, le président du département. 29 directeurs d'école sur 32 ont pris position contre la réouverture des écoles avant septembre, ce qui montre qu'il y a quand même à part le recteur en Guadeloupe, personne ne veut que les écoles rouvrent. Et donc il y a quand même une situation où les élus sont sous pression de la part de la population et de la part des organisations syndicales, qui fait qu'à un moment donné, ils ont pris la décision de s'écarter des directives ministérielles, des directives du gouvernement et de l'État, et de dire que la reprise serait différée. Et ça, c'est quand même une particularité, je pense. Je ne sais pas exactement comment c'était en Guadeloupe, mais en Guyane, mais en Guadeloupe et en Martinique, ça a été très clair. C'était pas de reprise à l'école tant que y a pas tant qu'on n'a pas avancé sur le problème de la crise sanitaire, tant qu'on n'a pas davantage d'éléments.
Alors, effectivement, en Guyane, on a le même topo. Alors, juste pour finir un tout petit peu sur l'histoire des référés, et notamment en Guadeloupe comme en Guyane, et quelque chose aussi qui a été acquis, c'est que la justice a officiellement reconnu que les syndicats de l'UGTG ou de l'UTG étaient représentatifs de l'ensemble de la population sur les questions sanitaires dans cette période de crise, ce qui est quand même une première et ce qu'il faut signaler parce que ça nous servira sûrement pour plus tard. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse qui est quand même un petit acquis pas négligeable. Alors, concernant le déconfinement, en Guyane, en fait, avant même la Guadeloupe, pour le coup, c'est très rare venant des élus guyanais, avant même la Guadeloupe, l'ensemble des élus guyanais, sans exception, s'est prononcé contre la réouverture des écoles le 11 mai. Donc, aussi bien les élus de la CTG, qui sont quand même connus pour être des laquais de l'État colonial, mais également de l'association des maires de Guyane. Donc, les 22 maires de Guyane se sont prononcés contre la réouverture le 11 mai. Alors, effectivement, il y a une pression de la population, mais je dirais que le principal argument qui les a motivés, c'est la peur des poursuites judiciaires. Depuis 2017, et le fait que plusieurs élus ont soutenu le mouvement de 2017, on a vu plusieurs maires se faire attraper par les affaires. Et donc, la mère patrie n'est peut-être pas aussi protectrice que ça. Et je pense que ça a beaucoup pesé dans la décision des maires en Guyane. Et effectivement, à l'unanimité, ils ont finalement décidé de ne pas rouvrir. Même des mecs comme Linguet, ou enfin, qui sont très à droite, qui sont vraiment avec des positions très colonialistes, se sont prononcés contre l'ouverture. Des mecs qui sont officiellement à La République en Marche et compagnie. Donc, il y a quand même quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là. Je pense aussi que la procédure en référé qu'on a fait en a calmé un petit peu, parce qu'ils se sont dit, merde, il y a quand même des gens qui réagissent au coup par coup, et puis les élections municipales ne sont pas terminées. Les élections de la CTG, c'est pour l'année prochaine, donc il n'y a pas intérêt de faire une fraude dans la période actuelle. Donc ça, du coup, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, et du coup, nous, ce que l'on a décidé, puisqu'on s'est posé la question par rapport au déconfinement le 11 mai, on s'est posé la question, on s'est réunis au niveau de l'UTG, on a dit, bon, est-ce que l'on peut organiser une grève générale à compter du 11 mai? Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Et en fait, de par le confinement, c'est très compliqué de toucher les travailleurs. Et c'est très compliqué d'organiser des piquets de grève, de mettre en place des barrages, voilà. Donc la question était celle-ci, et on s'est dit, bon, ce qu'il faut déjà pour éviter que que l'économie se relance et que du coup il y a un déconfinement général et donc un risque d'amplification majeure de l'épidémie, c'est de faire en sorte de maintenir les écoles fermées. Et donc on a structuré une sorte de collectif, on a réuni une dizaine d'associations, partis politiques, syndicats. Et on a adressé un courrier au président de la République en lui disant pas de réouverture avant la rentrée de 2020-2021 et dans les meilleures conditions qui soient, il va falloir mettre le paquet parce que ça va pas être, c'est pas négociable. Au passage, on lui a rappelé qu'il fallait pas qu'il applique les ordonnances sur les RTT, les congés retirés aux travailleurs en Guyane. Voilà, c'est comme ça il l'a pris aussi. Et puis, on lui a donné deux, trois petites remontrances concernant sa gestion de la crise. Je pense que ça lui a pas trop fait plaisir. Je ne sais pas si on aura une réponse. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une position collective assez forte. Et cette position collective a été au-delà du cadre anticolonialiste classique. Et ça, c'est intéressant. On a, par exemple, le mouvement du député Gabriel Serville qui s'est joint à la démarche. On a le syndicat solidaire en Guyane. Alors bon, vous savez, le syndicat sud en Guyane, effectivement, officiellement, il a une position anticolonialiste, mais c'est pas toujours évident dans la pratique. Enfin, je ne vais pas revenir dans les grands débats qui peuvent animer ce syndicat, qui est un syndicat frère, hein, mais voilà, il y a des réalités qui ne sont pas forcément évidentes tous les jours pour les militants de terrain. Et puis même, on a été jusqu'à un syndicat de l'UNSA, de la fonction publique d'État, donc voilà, ça en dit très long, sur cette ouverture, telle qu'elle s'est formulée. Donc, il y a effectivement un front qui est en train de se structurer. En face, on a des autorités sanitaires qui nous voient, hein, à vue, et puis, comme de par malchance, eh bien, dès que le déconfinement a débuté, les taux d'infection n'ont fait que se décupler, puisqu'on a découvert le cluster de Saint-Georges avec une épidémie extrêmement massive et violente qui vient du Brésil, dont une part de responsabilité est importante, hein, et peut être incombée au président Bolsonaro, qui est dans une démarche vraiment d'extrême droite de darwinisme social, quoi, hein, Dieu reconnaîtra les siens, quoi. Et donc là, on a des cas, des dizaines de cas qui apparaissent chaque jour. On a eu plus de 50 cas en moins d'une semaine. Et on en aura sûrement beaucoup d'autres dans les jours qui viennent. À partir de demain, ils vont lancer une campagne de dépistage massif sur la commune de Saint-Georges. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'on va avoir peut-être même des centaines de cas positifs. En plus, il faut comprendre que la population amazonienne à Saint-Georges, c'est une population transfrontalière. Pour la petite histoire, cette zone-là faisait partie du contesté franco-brésilien qui a été arbitré par le tribunal de Genève il y a un peu plus de 100 ans, qui a dit, bon, finalement, c'est au Brésil. Mais la France a revendiqué l'appartenance de 90% de l'AMAPA pendant plusieurs siècles. Et donc, il y a un rapport des populations transfrontalières qui est vraiment très important. Et il est complètement illusoire d'imaginer que le fleuve Oyapock qui sépare le Brésil de la Guyane puisse être une frontière au même titre, par exemple, que la Guadeloupe peut avoir des contours insulaires qui sont bien délimités, quoi. Donc là, on est devant quelque chose d'extrêmement grave. On a déjà des cas dépistés sur le reste du littoral qui arrivent de Saint-Georges, sachant que le temps d'incubation est de 5 à 15 jours. On va se retrouver dans les jours qui viennent avec énormément de cas un peu partout sur le territoire. Et je ne sais absolument pas à partir de ce moment-là comment les choses vont se passer. Ce qui est à craindre, c'est que les hôpitaux soient les premiers contaminés, peut-être même qu'ils soient les vecteurs de contamination. Et donc, on verra bien l'évolution dans les semaines qui viennent. Mais il n'est vraiment pas improbable que même les autorités sanitaires réordonnent un reconfinement général de la Guyane. Actuellement, ils ont gardé confiné Saint-Georges de l'Oyapock. Malgré ça, il y a des cas qui ont transpiré partout. Et puis tout le long de la frontière, après il y a d'autres communes, Camopi, Troisseau, et là il est fort probable également qu'il y a eu des contaminations assez massives.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre en perspective un peu ce qui s'est fait du point de vue des organisations syndicales en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et ce qui s'est passé dans l'Hexagone, où si des organisations syndicales ont essayé de prendre en charge notamment la question des droits des salariés, de se battre un peu sur effectivement la question du temps de travail et des RTT, il y a, je pense, matière vraiment à penser à partir de ce positionnement particulier qui est celui des organisations syndicales. Je trouve vraiment intéressant de se projeter dans quelque chose qui est un peu au-delà du droit ou de la façon dont l'État ou les organisations économiques considèrent le rôle des syndicats, quoi. C'est-à-dire de pas seulement être présent sur le travail de représentation et de défense des salariés, mais de continuer à être arrimé à un projet de transformation sociale, de pointer des choses qui concernent toute la société et de pas le faire simplement dans une optique un peu obtuse, comme parfois on caricature les organisations indépendantistes ou anticolonialistes en disant, bon, ben voilà, ça, c'est les éternels râleurs. Non, moi, je pense que justement, parce qu'ils ont conservé la vision du syndicalisme comme étant aussi porteur d'un projet politique, ils sont capables de prendre position de façon très ferme sur un certain nombre de sujets. Ils ont aussi une implantation et on va dire une espèce de lien organique avec la population qui fait que quand bien même les populations adhèrent pas aux projets indépendantistes ou anticolonialistes en eux-mêmes, il y a quand même une certaine audience des organisations syndicales, des organisations anticolonialistes et il y a cette habitude de prendre les affaires en main et d'inciter la population à prendre les affaires en main et à lutter un peu contre les effets de clôture, quoi, de dire simplement, ben voilà, ça c'est pas une question syndicale puisque ça concerne pas directement le droit du travail, mais je pense qu'il y a matière à penser s'il doit y avoir des mobilisations sociales après le déconfinement, parce qu'on sait que là le gouvernement prépare une restauration autoritaire de l'ordre économique. Il y a matière à s'inspirer des efforts qui ont été fournis par les organisations de salariés sur ces territoires pour penser le coup d'après, quoi, et pour penser la façon dont on peut se mobiliser à la fois contre le patronat ou contre l'État, quoi.
Alors du coup, par rapport au fait de s'appuyer là-dessus, peut-être que ça peut faire le lien avec justement le lobby minier qui revient en force.
Relative à l'or en Guyane. L'or fait partie tu sais, dans une économie coloniale, la métropole telle qu'elle s'appelle, c'est-à-dire le territoire de rattachement des colonies, vient exploiter les ressources premières et elle revend des produits manufacturés. Hein. C'est un peu ça le principe général de l'économie coloniale. Et on est peu ou prou dans le même cas de figure. Et après, voilà, c'est la ressource naturelle de la Guyane, c'est sa position géostratégique qui fait qu'on va exploiter le centre spatial. Mais il n'y a pas que cette ressource, il y a effectivement des ressources minières très 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 importantes en Guyane. Il y a de l'or, effectivement, mais il y a aussi du diamant, il y a aussi de la bauxite, il y a à peu près tous les minéraux et les métaux rares possibles et imaginables. Donc il y a de la platine, il y a du nickel, enfin bon, c'est vraiment très important. Il n'y a actuellement aucune exploitation industrielle des différents métaux. Il y a des exploitations, allez, on va dire, assez intensives quand même de l'or. Il y a des grandes entreprises d'or en Guyane, famille Ostorero notamment, qui est impliquée dans le nouveau projet extrait, selon elle officiellement, parce que c'est très peu contrôlé, 500 kilos d'or par an. Bon. Avant d'entamer sur l'histoire des grands projets, il y a la problématique de l'or en Guyane. Aujourd'hui, l'or en Guyane, les services de l'État estiment qu'il y a environ 10 tonnes d'or qui sortent chaque année illégalement du territoire guyanais. D'accord. Il y a une estimation à peu près 600 chantiers illégaux dans la forêt qui réuniraient entre 5 et 15 000 travailleurs illégaux. Alors, la problématique de cet or qui s'enfuit sous les coups de pioche des galimperos, c'est de savoir où est-ce qu'elle part, comment elle part, comment les gens sont ravitaillés, et ça semble, on a beau tourner le problème dans tous les sens, ça semble quasi impossible de l'organiser sans une certaine mansuétude des autorités de répression, d'une part, et des entreprises légales, d'autre part, puisqu'on a beaucoup de sites d'orpaillage illégaux qui sont à proximité des gisements légaux. Il y aurait des vrais conflits, voilà, ça serait un peu plus délicat. Alors après, effectivement, il y a des voleurs d'or, on a régulièrement des prises d'otages, des mecs qui viennent sur une entreprise légale, qui volent de l'or, bon. Mais généralement, ceux-là, ils se font arrêter ou ils se font flinguer. Les autres qui viennent creuser l'or de façon organisée, bon, de temps en temps, il y a des militaires qui arrivent, ils noient la pompe, ils saisissent l'or et puis ils donnent au mec une ordonnance de quitter le territoire, mais ils les laissent dans la forêt et puis ils repartent. Voilà. Donc les mecs, bon, bah, ça y est, hein, on va rechercher une autre pompe et puis c'est reparti, on creuse, quoi. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu. Et donc, la logique déjà de cet or, c'est qu'on ne sait pas comment elle quitte la Guyane, par quel biais elle quitte la Guyane, et au profit de qui elle quitte la Guyane. Donc, il y a pas mal de militants qui s'interrogent sur une possible mainmise de l'État quelque part derrière ce processus, soit en travaillant en partenariat avec des sociétés mafieuses, soit en faisant en sorte que les exploitants légaux récupèrent une partie de leurs produits à moindre coût. Pour expliquer rapidement, le coût d'extraction d'or par les galimperos est quasiment proche de zéro, puisque le fonctionnement d'une mine d'or illégale se fait sur la base des fazendeiros du nord-est du Brésil, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont isolés dans la forêt, qui doivent payer de quoi manger, de quoi se loger, leur matériel pour travailler. Ils sont payés en pépites d'or et ils payent tout en pépites d'or, y compris les prostituées qui sont sur le site. Et tout ce qui est fourni appartient à l'exploitant. Donc en clair, l'exploitant, à la fin, il a à peu près tout l'or qui a été saisi. Et son or, il est capable de il l'a extrait pour un coût extrêmement ridicule. Donc, quand tu es situé à proximité d'un exploitant d'or légal, bah, le gramme d'or qui se vend sur le marché à 40 euros actuellement, eh bien là, si tu le vends à 20 euros à un exploitant d'or, je pense que tu as fait ton beurre. L'exploitant d'or, il est content parce qu'il va le vendre 40 euros. Et puis tout le monde, il est content. Personne, il n'a rien vu. Et puis, il roulait. Voilà. Donc, c'est probablement un des systèmes d'exploitation, finalement, quand même, à travers tout ça, d'exploitation coloniale de l'or qui existe actuellement. Bon. Mais ça c'est quand même des broutilles. Parce que là, les projets dont on parle, on n'est pas du tout sur la même envergure. Il y en a depuis de nombreuses années, hein. Ils essaient de mettre en place des projets. Il y a eu en 2008 Sarkozy qui était revenu sur un grand projet dans une zone protégée qui était estimée à plus de 50 tonnes d'or. Il y a eu donc le projet de la montagne d'or où on était entre 95 et 120 tonnes d'or. Là, il y a ce nouveau projet où on est à peu près à 70 tonnes d'or. Donc là, on est vraiment sur de l'exploitation industrielle par les grands groupes capitalistes. Donc ce montage-ci, c'est donc Ostorero, la plus grande famille aurifère de France même, puisque il n'y a pas beaucoup d'exploitants français. Donc la plus grande famille d'exploitation aurifère de France, qui s'est associée au plus grand exploitant mondial d'or. C'est des mariages qui sont assez réguliers. En fait, pour exploiter une mine d'or de cette taille-là, généralement, on fait toujours appel à une major qui a les moyens de mettre 100 millions sur la table pour mettre en place le projet, quoi. Voilà. Donc là, on a été chercher une grande société américaine, la plus grande société d'or au monde, pour qu'elle vienne creuser cette mine d'or. Alors localement, eh bien, déjà, on voit apparaître des résistances, se structurer de la même façon hein, que l'on a eu à l'époque de la montagne d'or, donc portée par les jeunesses autochtones notamment, par le collectif Hors de Question hein, qui s'est restructuré, assisté par le collectif, l'association Trop-Violence. Donc il y a déjà une première structure qui se positionne, et ça c'est déjà bien du coup. Après, comme disait Pierre tout à l'heure, les syndicats prennent des positions qui sont largement au-delà de ce que l'on a l'habitude en France. Pour le projet Montagne d'Or, l'UTG avait pris une position officielle et avait participé au débat. Il avait même été auditionné par la Commission nationale de débat, là, et on avait fourni un document qui relatait notre position. En clair, la position de l'UTG, c'est de dire l'or présent en Guyane est au Guyanais. Pour le moment, le temps qu'il n'y a pas d'autodétermination du peuple guyanais, cet or-là ne doit pas être extrait. Une fois qu'il y aura une souveraineté guyanaise, la question devra se poser de savoir est-ce qu'on exploite ou pas cet or et à quelles conditions. Et si on l'exploite, c'est parce que ça peut être l'objet d'une ressource stratégique pour la stabilité monétaire dans les banques centrales. Mais pas pour aller faire du commerce sur les marchés financiers. Bon, c'est important quand même de dire, ouais, écoute, qu'est-ce qui fait que la France est la sixième puissance mondiale? Bah, c'est parce qu'elle a 5 000 tonnes d'or dans sa banque centrale. Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne a une économie qui a très bien résisté à la crise de 2008? Eh bien, c'est parce qu'elle a 8 000 tonnes d'or dans sa banque centrale. Donc, en fait, la capacité pour un État de garantir sa monnaie par un équivalent or la rend réellement solide. Donc la question qui a été posée, c'est que si jamais on exploite cet or, c'est dans ce cadre-là et pas dans un autre cadre, dans le cadre capitaliste classique. Donc ça, c'est une position qu'on a prise qui est plutôt assez intéressante et donc on reste toujours sur la même position. Donc on s'oppose de fait à cette exploitation industrielle, même si elle est portée par une grande famille guyanaise. Le problème est toujours le même, sachant que les retombées, bien sûr, pour la Guyane sont ridicules, hein, c'est 2% hein, reversés à la collectivité territoriale. Quand on voit par exemple le Suriname voisin, ils prélèvent 40% hein, des ressources liées à l'or ou au pétrole au niveau étatique. Et du coup, ils ont des capacités financières qui se sont décuplées sur les 10 dernières années grâce à ça. Et les exploitants d'or ou de pétrole sont là. Donc, même dans un système capitaliste, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce qui est prévu actuellement, quoi. Voilà.
On se refait une petite pause musicale avec les Nègres Marrons et leur titre Guyane Levée.
Tamboudaïo, tamboudaïo, tamboudaï, dimo kimoun, kika mouri.
Bien à l'écoute de Fracture. Alors aujourd'hui on parle de la Guyane et des Antilles et on poursuit la discussion avec toi Pierre.
On a eu une séquence de mobilisation dans l'Hexagone qui était vraiment très forte et on a l'impression que les organisations syndicales dans l'Hexagone après la crise du Covid sont un petit peu déstabilisées, en tout cas qu'elles ont du mal à embrayer, à faire le lien un peu, à faire la jonction entre la séquence de mobilisation qui a été assez intense dans les mois de décembre, janvier, février, et puis les éventuelles perspectives de mobilisation qui s'ouvrent après le déconfinement. J'avais eu l'impression que, du point de vue de la mobilisation syndicale en Guyane, et puis pour ce que j'avais perçu de la Guadeloupe et de la Martinique, ça faisait pas le plein à ce moment-là, et que là, à l'inverse, il y a vraiment il y a quand même une grosse tentative de remobilisation suite à la crise du Covid. Est-ce que toi, ça te paraît être un peu comme ça ou...
En fait, le principe est simple. Hein. Il y a toujours une déconnexion dans l'agenda social entre les colonies et la France. Que ce soit l'UTG, la CGTG, l'UGTG en Guadeloupe, ils ne vont pas suivre forcément les mots d'ordre de grève lancés en France. D'une part parce que tout simplement Les gens se mobilisent difficilement lorsqu'ils ont l'impression qu'eux-mêmes ne peuvent pas négocier quoi que ce soit. Et généralement, quand on vit en Guyane, bah, c'est à l'échelle de la Guyane qu'on négocie. C'est-à-dire que si ton organisation syndicale qui te représente, elle peut pas aller se poser avec le préfet et signer un accord qui fait que ça va être comme ça ou comme ça, bah, les gens, ils y vont pas. Donc, suivre un mouvement qui part de France, ça va être, on va le suivre par solidarité. Mais de fait, si on ne lui donne pas un réel écho local, si on n'arrive pas à le structurer localement, à lui donner un calendrier local, à lui donner des revendications locales, eh bien, le mouvement ne prend pas. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu sur la séquence des retraites. Après, sur la séquence du Covid, eh bien, encore une fois, on a des organisations syndicales qui sont pas tombées dans le réformisme absolu, malheureusement, qu'ont connu hein, beaucoup d'organisations syndicales en France, et elles se satisfont pas simplement d'un rôle social qui leur a été bien attribué, encadré, ou voilà. Même si on dit toujours, attention, il y a les partis politiques, ils ont leur rôle à jouer. Bon, à l'UGTG, les mecs, ils sont un peu plus bruts de décoffrage parce qu'ils considèrent que les partis politiques, ils valent absolument rien en Guadeloupe, donc on ne peut pas leur faire confiance. Mais à l'UTG, il y a quand même un peu une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'UTG avait il y a même une histoire où l'UTG avait présenté des candidats à différentes élections. Bon, maintenant, dans le statut, on a clairement écrit, on ne participe pas aux élections, ça c'est réservé aux partis, on ne touche plus à ces conneries-là. Nous, on agit, on prend des positions politiques, mais on laisse la politique politicienne pour les politiciens. Voilà. Et effectivement, sur la crise du Covid, en fait, c'est une crise politique, plus qu'une crise syndicale, qui est ouverte. C'est la crise du libéralisme, hein, qu'on soit clair, que ce soit dans ce qui a conduit à la catastrophe que l'on connaît, que ce soit dans ce qui pousse dans les choix complètement incroyables du monarque républicain de France. On est exactement dans ce trip-là. C'est-à-dire que là, quand le gars il va te dire, allez, tu choisis ou pas d'aller à l'école ou d'emmener tes enfants à l'école, on est dans le choix du libéralisme, n'est-ce pas, hein? C'est merveilleux. Sachant que derrière, qu'est-ce qui se cache? Bah, ce qui se cache, c'est que les plus pauvres, ceux qui sont menacés de licenciement, ils n'auront pas le choix, ils vont aller au casse-pipe, et puis ceux qui pourront se cacher, bon, bah, ils resteront chez eux, quoi, en télétravail. Donc c'est aussi ça la triste réalité, c'est qu'on va faire une immunité collective en infectant les pauvres. Et ce qui correspond très bien au mépris de classe porté par ce gouvernement depuis le début, quoi. Donc, effectivement, le problème est politique. Et puis après, nous, dans les territoires colonisés, ben, ce problème politique, il est encore plus évident parce que il n'y a aucune prise en considération des réalités locales. Par exemple, la directrice de l'ARS va toujours considérer que la Guyane, c'est un territoire comme un autre de la France. D'accord? Et donc, on doit appliquer exactement les règles qui sont prévues. Sauf qu'elles sont absolument pas bonnes. Là, enfin, tu vois, pour donner juste enfin, tu en as des tas d'exemples, mais bon, bah, je te parlais tout à l'heure des quatorzaines, mais voilà, ça, c'est un des exemples à la con où on va suivre ce qui se fait en France sans réfléchir aux répercussions locales que ça peut avoir. Il y a des tas de choses comme ça qui sont faites, qui sont absolument pas justifiées, qui sont absolument pas logiques, mais qui sont prescrites par les ministères, donc on les applique. Et du coup, bah, c'est des moments important où la population se rend compte réellement que l'absence de souveraineté de la population sur un territoire, eh bien, produit des effets qui ne sont pas souhaités. Et donc, c'est une porte ouverte. C'est d'ailleurs ce que j'avais écrit là dans l'article que je disais en introduction. C'est vraiment une porte ouverte pour les révolutionnaires. Et il faut aller dedans, il faut aller en profondeur dedans et pousser dans le paradoxe absolu l'application du schéma colonial en Guyane et de l'impact que ça a sur la santé de la population. Parce que malgré tout, en fait, la peur peut être un vecteur d'unité assez, assez important. Et ceux qui sont responsables de désorganisation, peuvent avoir beaucoup de soucis à se faire. Et là, on va voir l'évolution de ce qui se passe en Guyane, mais on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer. En Guadeloupe, là, on a vu des habitants commencer à faire des barrages pour avoir de l'eau, machin et tout. En Guyane, je te garantis pas que dans quelques jours, il n'y ait pas des émeutes, des mouvements, des trucs complètement spontanés que la population. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que souvent dans les mouvements, c'est pas forcément l'organisation qui la décrète. C'est-à-dire que c'est l'organisation, elle suit le mouvement populaire. Et par contre, elle a intérêt de suivre le mouvement populaire et d'être présente, parce que ça, on va pas l'attendre. Hein. Donc, tu vois, pour comparer un petit peu avec les Gilets jaunes, ça semble complètement improbable en Guyane d'avoir un mouvement de type Gilets jaunes en Guyane et puis qu'on les regarde comme ça en disant ah non, 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 ben non. Bien sûr que si, tu rigoles ou quoi? Ils sont en train de mettre en cause le pouvoir colonial. On y va, on y va, on défonce, on appelle la grève générale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui n'a pas eu lieu en France, quoi, tu vois. Donc,
Ça, c'est sûr. Merci Adrien Guillot et Pierre Rodin pour vos analyses et votre lecture donc de la situation à la fois en Guyane et puis en Guadeloupe et en Martinique. Donc on peut retrouver tes écrits donc sur le site du NPA. Et puis Pierre Rodin aussi, tu avais écrit un article donc pendant le confinement. Où est-ce qu'on peut le trouver?
Sur le site de Silogora, c'est le site de la Fondation Gabriel Péri.
Et puis, bah, écoutez, nous, à Fracture, eh bien, on continue notre tour des Outre-mer avec une prochaine interview sur Mayotte.
Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre ou réécouter les anciennes émissions, c'est ou sur le site de Pulsar ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et enfin, pour nous contacter, c'est sur fracture@autistiki.com, fracture au pluriel, @autistici.org. À bientôt.